France Inter.
Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, l'affaire Nordal-Lelandais. En août 2017, Maëlys de Arrojo, 8 ans et demi, disparaît lors d'une fête de mariage en Isère. Les gendarmes en sont persuadés, l'enfant a été enlevé. Mais par qui ? Rapidement, un suspect est interpellé. Il s'appelle Nordal-Lelandais. Cet ex-maître chien, connu pour des faits de délinquance, nie toute implication. Mais les preuves contre lui s'accumulent. Son Audi A3 renferme de nombreuses traces du passage de la petite fille. Et c'est aussi ce véhicule qui met les enquêteurs sur la piste d'une autre victime, un jeune caporal de 23 ans, Arthur Noyer. Acculé, Lelandais confesse deux meurtres, celui de Maëlys et celui d'Arthur. Mais il le clame haut et fort, ses crimes sont accidentels et le mobile n'est pas sexuel. Pourtant, Lelandais a tout du prédateur sexuel justement. Et bientôt, les enquêteurs se demandent s'il est un tueur en série, s'il a fait d'autres victimes. Une nouvelle enquête commence. Notre invité aujourd'hui, Michel Moatti, maître de conférences en sociologie et auteur de livre-rapport sur Nordal-L, paru chez HC Éditions en 2022. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Margot Boudge. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Réalisation, Juliette Gou.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Août 2017, la nuit enveloppe la petite ville de Pont de Beauvoisin, en Isère. Mais à la salle des fêtes, on continue de veiller. Car ce week-end, comme un peu partout en France, il y a mariage. Eddie et Anne-Laure se sont dit oui à la mairie, puis à l'église. Il est maintenant 3h du matin. Les invités enflamment le dance floor sous les stroboscopes. « Venez danser », crie-t-on à ceux et celles qui restent sur leur siège. Parmi eux, Jennifer de Arrojo, 37 ans, cousine de mariée, en pleine discussion avec des membres de sa famille élargie. C'est qu'elle les voit moins depuis que son mari, Joachim et elle, ont quitté l'Isère pour le Jura, où ils exercent comme plombiers et infirmières. Jennifer se lève, prête à rejoindre la piste. Elle sourit. On passe, sapé comme jamais, de Maître Gims, l'une des chansons préférées de sa fille, Maëlys, 8 ans et demi, et qui adore danser. C'est sûr, Jennifer va voir sa fille débarquer sur la piste. Mais Maëlys n'apparaît pas. C'est bizarre tout de même. Où sont les yeux malicieux, les nattes noires, la silhouette menue en robe blanche, se demande Jennifer. Bon, au début, elle rationalise. Maëlys joue sûrement avec d'autres enfants dans une pièce attenante. C'est une bonne chose. L'année scolaire n'a pas été rose pour la petite fille qui s'est faite embêter par des garçons de sa classe. Ce soir, au contraire, Maëlys a semblé beaucoup s'amuser. Il faut dire que l'accueil fait aux enfants est soigné. Des lots à gagner, une salle de repos et une babysitter qui vient justement de finir son service. Jennifer passe quelques pièces en revue, pas de Maëlys. Elle interroge sa sœur, Séverine, sa nièce, Gwenaëlle. Elles non plus n'ont pas vu Maëlys depuis quelque temps. Alors Jennifer se dirige vers le DJ, qui lance un appel au micro. « Maëlys, où es-tu ? » Mais la toute petite fille ne répond pas. En tout cas, elle est nulle part. Dans son livre, Maëlys, coécrit avec Tiffaine Pioget, Jennifer de Arrojo raconte.
Une appréhension me gagne. Mon objectif, retrouver ma fille. Plus rien d'autre ne compte. C'est comme si mon champ de vision se rétrécissait pour se concentrer sur cet unique but. Je ne panique pas. Je suis méthodique. Est-elle dans la chambre froide ? Non. La salle où dorment les petits ? Bien sûr que non. Maëlys ne serait jamais allée se coucher sans nous avertir. Je fouille tout. Même les poubelles sur le parking. Rien de mon côté. Joachim, lui, vérifie l'internat du lycée. Des chambres ont été louées pour loger certains invités. Séverine et Gwenaëlle cherchent aussi Maëlys. Les autres dansent toujours. Normal, nous sommes dans un mariage familial. Aucune raison de s'inquiéter. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Jusqu'à ce que nous ayons cherché partout. Maëlys n'est nulle part. Le DJ saisit son micro et fait une nouvelle annonce. Cette fois-ci, la musique s'arrête. Elle ne reprendra pas. L'atmosphère change. L'insouciance et la légèreté disparaissent. Les corps qui étaient détendus se redressent. Tous se mettent en quête de notre fille, dehors et dedans, dans le silence et la gêne.
Effectivement, le ton change. À 3h57, Maëlys reste introuvable. Jennifer s'effondre sur une chaise, les jambes coupées, le cœur battant, le visage en larmes. Autour d'elle, l'angoisse est palpable. On répète en boucle, il faut agir, vite. Ne dit-on pas que les premières heures d'enquête sont déterminantes lors d'une disparition d'enfant. Joaquim de Oro alerte les gendarmes. À 4h25, ils sont sur place. Tout de suite, ils récupèrent les clés de la voiture de chacun des invités. Les véhicules sont tous fouillés. Mais l'enfant n'est nulle part. La brigade canine fait son entrée. On tend au chien le doudou de Maëlys. Aussitôt, les Saint-Hubert reniflent les allées venues de la fillette. Sur le parking de la salle des fêtes, les chiens s'immobilisent. Et c'est là que s'interrompt le parcours de l'enfant. Il est probable qu'elle ait été emmenée dans une voiture, déclare la police. Une piste terrible se dessine dans toutes les têtes. L'enfant a sans doute été enlevé. Dimanche 27 août, voilà 10 heures que Maëlys est portée disparue. Tout Pont de Beauvoisin, 3000 habitants compteur, est en émoi. Les forces de police se déploient, des battues s'organisent.
Vous allez pouvoir partir tout de suite sur vos zones respectives. En avant.
Un vaste dispositif de recherche est déployé. Des hélicoptères survolent les environs. 150 militaires sondent les lacs, fouillent les forêts, les gorges avoisinantes, aidés par des habitants qui se sont portés volontaires.
Nous voulons nous assurer que nous n'avons rien oublié. C'est trop grave, sinon, si nous sommes passés à côté d'un élément.
Les policiers auditionnent un à un les invités du mariage. 180 tout de même. Il faut aller vite, on l'a dit, et n'oubliez personne. Alors les convives s'observent à la dérobée, mais qui peut avoir enlevé cet enfant ? Cette question taraude Michael, témoin du marié, et elle le poursuit quand il rentre chez lui en fin de journée. Soudain, il aperçoit une silhouette familière à la station de lavage. Cheveux ras, torse nu et musculeux. Mais c'est Nono. Nono est un copain, présent la veille au mariage. Michael le sait. Nono s'est en quelque sorte incrusté à la noce après avoir passé un coup de fil au marié, un pote un peu perdu de vue. Michael observe Nono, il est en train de laver sa voiture. Il semble très concentré sur sa tâche, très minutieux. Michael fronce les sourcils, mais qui peut bien penser à sticker sa bagnole alors qu'une gamine vient de disparaître et que tout le monde essaie de la retrouver ? Quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, des traces à effacer peut-être. Michael mobilise ses souvenirs de la soirée. Nono s'est absenté plusieurs fois, et il n'était pas là quand on a commencé à chercher la fillette. Non, il n'est réapparu qu'après. Michael en est sûr. Nono est parti avant l'arrivée de la police. Mais il hésite. L'affaire est trop grave. Alors il appelle la police. « Vous devriez vous intéresser à Nordal Lelandais, leur dit-il. Il a peut-être quelque chose à voir avec la disparition de Maëlys. » Michael ne le sait pas. Mais Nordal Lelandais, 34 ans, est déjà dans le viseur des enquêteurs. Il vient de déclarer, durant son audition, n'avoir eu aucun échange avec Maëlys. Pourtant, Jennifer de Aoro est formelle. Cet homme qu'elle ne connaît pas a discuté avec sa fille lors de la soirée. Dans le podcast du Parisien Code Source, le journaliste Serge Peillot explique.
Il s'appelle Nordal Lelandais. Et c'est vrai que lors de cette soirée, il a souvent tourné autour de Maëlys. C'est un homme qui visiblement est passionné par les chiens. Il a montré à Maëlys ses chiens en photo sur son portable. À la lumière de la disparition de sa fille, la mère de Maëlys, son père également, se sont dit que cet homme-là avait peut-être quand même un comportement bizarre et que peut-être il pouvait être à l'origine de la disparition de leur fille.
Si Lelandais essaie de se débarrasser des preuves du passage de Maëlys dans sa voiture, il faut absolument l'en empêcher. Alors les enquêteurs se précipitent chez le suspect. Direction de Messin, près de Pont de Beauvoisin. C'est là où Lelandais, sans emploi, est revenu habiter chez ses parents. Arrivé dans l'allée d'une maison de crépi, la brigade tombe sur leur homme, en train de nettoyer son Audi A3 grise, décidément. C'est une manie. Envoyé renifler la bagnole, les chiens se mettent aussitôt à vomir. Leur odorat ultra sensible ne supporte pas la tonne de produits toxiques avec lesquels le véhicule a été récuré. À croire que la voiture était passée au Karcher. Décidément, ce Lelandais cherche bien à cacher quelque chose. Le jeudi 31 août, il est placé en garde à vue. Et les enquêteurs ont du biscuit. ils viennent de retrouver une trace ADN de Maëlys sur le tableau de bord du véhicule du suspect. Et de découvrir qu'à 2h46, soit l'heure estimée de la disparition de la fillette, le Landais éteint son téléphone portable, comme pour ne pas être localisé. Assailli de questions, il reste de marbre, sûr de lui, ne se laisse pas impressionner. C'est même Monsieur Réponse à tout. « Oui, dit-il, Maëlys est bien montée dans ma voiture, mais seulement une seconde pour voir mes chiens, que je n'avais d'ailleurs pas emmenés. Oui, j'ai mis mon téléphone sur off, mais pour préserver la batterie. Oui, j'ai quitté plusieurs fois la soirée, mais pour dealer de la drogue. Non, je ne peux pas vous montrer la tenue que je portais le soir du mariage. Je l'ai jetée après l'avoir tachée de vin. Et si j'ai lavé ma voiture au coton-tige, c'est parce que je dois la vendre. » Ma réponse à tout, oui. Mais aucune réponse n'est convaincante. Le 3 septembre, le Landais est mis en examen pour enlèvement et séquestration de Maëlys des Haroro et mis en détention. Devant les journalistes qui médiatisent largement l'affaire, la mère du prévenu s'insurge.
On cherche un coupable et on trouve un jeune homme parce que quand il était jeune, il a fait des bêtises, des petites bêtises. Et là maintenant, on trouve le coupable. Voilà, je connais mon fils. C'est impossible qu'il fasse une chose pareille.
Impossible que Nordal le Landais fasse une chose pareille. C'est aussi la vie de ses frères, ses sœurs, ses copains, pour qui Nono est quelqu'un de toujours prêt à rendre service, et même protecteur avec les enfants. Mais le Landais est aussi un homme en errance. En 2005, il est radié de l'armée où il exerce comme maître chien. Indiscipline, violence, consommation de drogue. Puis il est condamné pour l'incendie de l'Instinct Bar. Et depuis, il végète, allant de petit boulot en petit boulot, de deal en deal. Ses passions, les chiens, les motos, la boxe thaï, la gonflette, la drague en ligne. Tiens, parlons-en de ses relations amoureuses. Nombreuses, elles ne durent jamais longtemps. Et ses ex-compagnes le décrivent comme un homme à deux visages, qui peut se montrer charmant, mais aussi menaçant, harcelant, violent au moment de la rupture. Il ne tolère pas la frustration, affirme-t-elle. Et il ment comme il respire. Un menteur, c'est ce que pensent aussi les parents de Maëlys, qui attendent désespérément des aveux. Le 28 septembre, le couple de Haroro lance un appel à le Landais lors d'une conférence de presse. Leurs mots sont mesurés, comme pour ne pas le brusquer.
Aujourd'hui, un individu est suspecté, mis en examen par des juges qui ont révélé des indices graves ou concordants à son encontre et qui est actuellement en détention provisoire. Nous lui demandons de dire tout ce qui s'est passé cette nuit-là et de coopérer avec la justice. Nous ne disons pas que nous recherchons un coupable à tout prix et sans preuve valable. Son comportement depuis le début de l'enquête ne nous convainc pas de sa bonne foi et de sa volonté de participer sérieusement à l'enquête. Il nous laisse à penser qu'il pourrait détenir des informations importantes et pouvoir nous aider à retrouver notre fils. Il doit sûrement lui aussi se poser beaucoup de questions et réfléchir depuis sa cellule. Nous espérons qu'il entende notre appel à l'aide car notre seul souhait c'est de retrouver notre fille.
Nordal le Landais se mure dans le silence. Pourtant, le faisceau d'indices qui l'accable ne cesse de s'étayer. L'exploitation des images captées par la caméra de surveillance de Pont-de-Beauvoisin lors de la nuit du 27 août livre un témoignage de taille. Sur la bande, on discerne une Audi A3 grise. Aucun doute, c'est celle de le Landais. Mêmes autocollants, mêmes jantes. Et l'ancien maître chien n'est pas seul dans sa voiture. Sur le siège passager se tient une petite forme. Pour les enquêteurs, cette silhouette ressemble à celle d'une enfant brune vêtue de blanc. Les parents de Maëlys sont convoqués chez leur avocat pour voir les vidéos. Jennifer de Arrojo s'effondre. Cet enfant sans visage, serré contre la vitre, semble vouloir se tenir le plus loin possible du conducteur. Comme Maëlys a dû avoir peur. Dans sa cellule, le Landais continue de nier. Mais une preuve, minuscule et irréfutable, va le faire flancher. Enfin. Nous sommes le 13 février. Alain Jakubowicz se précipite à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. L'avocat vient voir son client, Nordal le Landais. Il a une expertise génétique en main. Il se trouve qu'on vient de retrouver une trace de sang dans le coffre de l'Audi A3 de le Landais, entièrement désossé, passé au peigne fin par la police scientifique. Ce sang, l'ADN est formel, et celui de Maëlys. Pour le Landais, les jeux sont faits. Le visage de l'avocat est grave. Car jusqu'ici, il a cru à l'innocence de son client. En tout cas, il le prétend. Il a même affirmé à l'antenne de BFM que la petite silhouette blanche prostrée dans l'Audi A3 est celle d'une femme au décolleté profond. « Cette fois, tu dois avouer », dit-il à Lelande et qu'il tutoie. Hochement de tête de la part du détenu. « Es-tu capable d'indiquer où est le corps ?» Lelande acquiesce. Alain Jakubowicz téléphone aussitôt à la juge d'instruction du tribunal judiciaire de Grenoble. « Mon client souhaite être entendu dans les plus brefs délais. » Mais Gaël Bardos est en vacances. L'avocat insiste. La suite, c'est la magistrate elle-même qui la raconte en fait entrer l'accusé.
Je suis au ski et là le téléphone sonne et le collègue me dit il va nous dire où est Maïlys. Je pense que toute la station m'a entendu hurler. Parce que vraiment, c'était la ligne de mire. C'était ce que j'avais, entre guillemets, indiqué aux parents. C'est qu'on faisait tout pour leur rendre leur enfant.
Le lendemain, la juge est à Pont-de-Beauvoisin. Nordal Lelandais doit la conduire là où il a dissimulé le corps de Maïlys. En file indienne, une procession de voitures de gendarmerie se lance sur les routes de campagne. À 17 km de la salle des fêtes, Lelandais désigne un chemin enneigé escarpé du massif de la Chartreuse. C'est ici. Après de longues heures de recherche, les chiens pisteurs grattent une cavité prise dans la glace. Ils mettent au jour quelques ossements entourés d'une petite robe blanche. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Nordal-Lelandais.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Massif de la Chartreuse, un chemin enneigé, une cavité. Maïlys est là, morte. Pour les parents, c'est la fin d'une insupportable attente. Ils n'imagineront plus leur fille enfermée quelque part. Ils n'attendront plus vainement son retour. Ils pourront l'enterrer. Mais la douleur, elle, ne s'arrête pas, évidemment. Tout comme les questions lancinantes, ils veulent savoir dans quelles circonstances Maïlys a-t-elle été tuée. Devant la juge, Lelandais déclare « L'enfant est monté de plein gré dans ma voiture, car elle voulait voir mes chiens. Mais une fois en route, elle s'est mise à pleurer, alors je l'ai giflée. Elle est morte sur le coup. Un accident, affirme-t-il. Impossible à croire, Maëlys, plutôt craintive, n'aurait jamais suivi un inconnu, et l'examen du crâne fracturé de l'enfant montre qu'elle a été frappée durement et à plusieurs reprises. Autre question qui ne lâche pas, la famille. Maëlys a-t-elle été violée par son bourreau? L'autopsie d'un squelette ne peut apporter de réponse. Alors, le Landais nie. Non, il n'a pas d'attirance pour les enfants. Pourtant, l'examen de ses recherches Internet et de son matériel informatique accrédite le mobile sexuel. Nordal le Landais a consulté des sites pédopornographiques juste avant de se rendre au mariage. Et il est déjà passé à l'acte, peu de temps avant l'affaire Maëlys. Dans des fichiers supprimés de son téléphone portable, on retrouve en effet des vidéos d'attouchements qu'il a fait subir à deux petites cousines de 4 et 6 ans durant leur sommeil. Nordal le Landais est donc un tueur d'enfants et un pédocriminel. Mais pas seulement. Le 29 mars 2018, il reconnaît avoir tué également un homme.
Il avait avoué le meurtre de la petite Maëlys, il avoue celui d'Arthur Noyer. C'est un rebondissement. Nordal le Landais a donc reconnu sa culpabilité dans deux meurtres en quelques semaines.
Voilà plusieurs mois que Nordal le Landais est mis en cause dans la disparition d'un jeune militaire. Tout commence le 11 avril 2017, 4 mois avant l'affaire Maëlys. Arthur Noyer, 23 ans, caporal d'un bataillon de chasseurs alpins, sort pour une tournée des bars et des discothèques. Direction le Caricurial, quartier des fêtards de Chambéry. Vers minuit, les copains d'Arthur rentrent à la caserne. Mais le jeune homme, lui, veut prolonger la soirée. Il rentrera en stop. Or, le lendemain, Arthur manque au rapport. Ses parents, dont il est très proche, sont inquiets. Leur fils n'aurait jamais déserté l'armée où il se sent à sa place et très apprécié. Non, sa disparition ne peut pas être volontaire. La gendarmerie de Chambéry ouvre alors une enquête. Elle montre qu'Arthur Noyer a bien quitté le carré curial seul vers 3h du matin. Il est filmé par des caméras de surveillance en train de faire du stop, très éméché. Les relevés téléphoniques montrent, eux, grâce au bornage de son portable, qu'il se déplace ensuite dans une voiture jusqu'à Saint-Baldoff avant de cesser d'émettre à 4h. C'est l'heure à laquelle il se volatilise. Pendant des mois, l'enquête piétine. Jusqu'à l'affaire Maëlys et son intense médiatisation. Les gendarmes de Chambéry ont l'excellente idée de connecter les deux affaires. C'est au Dia 3 grise que les caméras ont filmé en train de tourner dans les rues de Chambéry le soir de la disparition d'Arthur Noyer. Ne serait-elle pas celle de Nordal le Landais? Bingo! Le bordage montre bien que le Landais se déplace au même endroit et en même temps que le portable du caporal. Aucun doute. C'est Nordal le Landais qui a pris Arthur en stop. Cécile Noyer, la mère d'Arthur, raconte d'en fait entrer l'accusé.
Un coup de fil du journaliste du Dauphiné. Et il me dit, c'est le Landais. Alors là, il fallait mieux que je sois assise. J'étais... c'est pas possible. Je rentre à la maison et j'ouvre la porte. Didier est derrière. Et je lui dis, s'il est mêlé de près ou de près par rapport à la disparition d'Arthur, Arthur, on ne le reverra pas vivant.
Mis en examen en décembre 2017, Nordal le Landais concède. Oui, il a bien pris le caporal en stop. Mais il a déposé chez un copain vers Saint-Baldoff. Bizarre, c'est à l'opposé de la caserne. Arthur n'y connaît personne. Alors, où est Arthur Noyer? Les enquêteurs ont rapidement la réponse. Un promeneur découvre un crâne humain près d'un chemin forestier à 16 km de Chambéry. Et les analyses sont formelles. C'est celui du caporal. Landais est acculé. Le bornage de son téléphone, encore lui, indique sa présence près du lieu où a été dissimulé le cadavre. Le 29 mars 2018, le Landais qui vient d'avouer avoir tué Maëlys passe aux aveux. Oui, il a tué Arthur Noyer dans la nuit du 11 avril 2017. Mais, je cite... sans le vouloir, suite à une bagarre qui a mal tourné. C'est lui qui m'a attaqué le premier en m'accusant de lui avoir volé son téléphone. J'ai riposté à coups de poing. Encore une fois, le Landais plaide l'accident. Et encore une fois, les enquêteurs ne le croient pas. Ils ont la conviction que le mobile pourrait être, comme dans l'affaire Maëlys, de nature sexuelle. C'est ce qu'explique le journaliste Dominique Rizet.
Les gendarmes pensent que ce soir-là, le Landais est en chasse. C'est un gros addict au sexe. Et ce soir-là, il a envoyé une tonne de SMS à une copine qu'il veut voir en lui disant « Je veux qu'on se voit, je veux qu'on se voit ». Elle lui dit « Non, mais si, mais non ». Bon, et elle finit par lui envoyer ce SMS et lui dit « Trouve-toi une meuf qui dit tout le temps oui ». Et elle lui conseille d'aller faire soigner ses pulsions sexuelles.
Les enquêteurs établissent que si le Landais fréquente majoritairement des femmes, il a aussi des relations sexuelles avec des hommes rencontrés en ligne. On le sait, ce soir-là, le Landais n'a trouvé personne avec qui passer la nuit, ni parmi ses plans sexe habituels, ni sur les sites de drague. Et on l'a dit aussi, il ne supporte pas la frustration. Alors, est-ce pour cela qu'il aura rôdé longuement dans Chambéry, à pied et en voiture, comme en attestent les caméras de surveillance? Pour trouver quelqu'un avec qui avoir des rapports sexuels? Est-ce pour cela qu'il a pris un tournoyer en stop? Le Landais nie catégoriquement. Mais déjà, se dessine le portrait d'un prédateur capable de s'en prendre indistinctement aux fillettes et aux hommes adultes, et dont le mode opératoire est de faire monter ses proies dans sa voiture avant de faire disparaître leurs cadavres dans les bois. L'ombre du tueur en série plane désormais sur Nordal Le Landais. Si l'ancien maître chien fait d'autres victimes, il faut les trouver. Début 2018, le service central du renseignement criminel de la gendarmerie crée la cellule Ariane pour savoir si le Landais a un rapport avec des disparitions inexpliquées dans la région, et qui sont nombreuses, comme l'explique Bernard Vazelli, président de l'association Assistance et Recherche des Personnes Disparues. Il s'exprime sur LCI.
Nous, on a à peu près 25 affaires de disparition sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui mériteraient des recherches pointues pour voir s'il n'y a rien qui matche avec l'activité de Le Landais, et ceci entre 2017 et le moment où il est revenu de l'armée. Très simplement, est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui a concentré sur 6 mois 2 homicides ait pu avoir un comportement sans risque toutes les années qui ont précédé? Donc il faut effectivement fouiller de façon à ce qu'on puisse au moins établir sa non-culpabilité. Il y a peut-être quelque chose derrière et donc on veut aller jusqu'au bout.
Patiemment, les 7 enquêteurs de la cellule Ariane reconstituent les déplacements et les fréquentations de Le Landais en passant au crible ses relevés téléphoniques, ses paiements, ses contacts. Il s'agit de dénicher des correspondances entre le parcours de vie de l'ancien maître chien et des cold cases de la région. La disparition de Jean-Christophe Morin et d'Armel Amadou, volatilisés en 2011 et 2012 au Festival de musique électronique du Fort de Tamiers, intéresse particulièrement les enquêteurs. Il faut dire que le Landais qui vend des stupéfiants est un habitué des rêves partis. Mais cette piste est refermée. La cellule Ariane, aujourd'hui dissoute, n'aura pas permis de mettre en cause le Landais dans des affaires de disparus. Il n'est donc pas considéré comme un tueur en série, ou alors un tueur en série en début de parcours. On ne lui reconnaît que, si j'ose dire, 2 homicides, qu'il faut maintenant juger. Le 3 mai 2021, c'est l'affluence au palais de justice de Chambéry. Nordal Le Landais prend place dans le box vitré vêtu d'une chemise sobre. Il est aujourd'hui jugé pour le meurtre d'Arthur Noyer. Et il campe sur ses positions. « J'ai donné la mort à Noyer, mais sans vouloir la lui donner. C'est le caporal qui m'a frappé en premier en m'accusant d'avoir volé son téléphone », soutient-il encore une fois. À la barre défilent des personnes venues contredire cette version. Des proches d'Arthur, qui témoignent du caractère égal du caporal, mais aussi plusieurs témoins qui lui ont parlé la nuit du drame alors qu'il faisait du stop. Il était ivre, mais gentil, jovial, poli. Le Landais, lui, a été vu par plusieurs personnes le lendemain du drame, sans aucune trace de coup au visage. Alors, que s'est-il vraiment passé dans la nuit du 11 avril? Au 4e jour du procès, un codétenu de Nordal Le Landais est invité à comparaître. Il vient, dit-il, livrer à la cour des confidences faites par l'accusé.
Avec Le Landais, on parlait souvent à la fenêtre ou en promenade. Un jour, il s'est lâché. Je lui ai demandé ce qui s'est passé. Il m'a dit qu'il avait pris Arthur Noyer en stop. Qu'en voiture, il lui avait demandé une fellation et que de là, ça avait chauffé. Arthur Noyer est descendu pour pisser. Nordal Le Landais a pris un caillou et l'a frappé à coups de pierre. C'est vraiment ce qu'il m'a dit.
Je n'ai pas inventé, précise-t-il. Mais dans la salle d'audience, on est sceptique. Juges et avocats savent qu'il faut prendre des déclarations de co-détenus qui essaient toujours d'obtenir des remises de peine avec des pincettes. Toujours est-il que, quel que soit le mobile, personne ne croit la version de l'accident défendue par le Landais. L'ancien maître chien n'a pas prévenu les secours. Il a éteint son téléphone, il a caché le corps et réitéré le même scénario lors de l'affaire Maëlys. Le 11 mai 2017, Nordal Le Landais écope de 20 ans de prison. Son avocat annonce qu'il ne fera pas appel. Le procès Maëlys attend. 31 janvier 2022, cour d'assises de Grenoble. L'émotion est immense. Partout est affiché le portrait de la petite fille aux yeux rieurs que la France a appris à connaître. Les parents de Maëlys sont là, bien sûr. Colline Desharo également. C'est la grande sœur, Colline, la grande sœur de Maëlys, 16 ans aujourd'hui. Au sixième jour de procès, elle plante son regard dans les yeux de Le Landais. « Avez-vous abusé sexuellement de ma sœur ?»« Non, » répond-il. Des anciens amis de l'ex-maître chien se succèdent à la barre. Jadis, ils l'appelaient Nono le rigolo. Mais ils ne sont pas ici pour rire. Ils se sont donné une mission, faire parler l'accusé. La famille de Maëlys a besoin de connaître la vérité, Nordal. Mais Le Landais restait sur la même ligne. Maëlys a voulu venir voir mes chiens, je l'ai tué par accident. Alors, que vont dire les psychiatres maintenant? La journaliste Louise Colcombe raconte dans Code Source.
Ils sont tous, psychologues et psychiatres, tous assez d'accord sur le fait que c'est quelqu'un qui est très dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il a une personnalité qui est très particulière, ce qu'ils appellent le clivage. C'est un fonctionnement qui permet de cloisonner la partie normale et la partie avec les démons, on va dire, la partie sombre, comme si il avait une conscience à double fond. Toute la partie sombre avec ses crimes, ses pulsions, notamment pédophiles, tout ça est bien enfoui. Et il veut jamais l'aborder. Donc c'est pour ça qu'il parle pas, en fait.
Le 18 février 2018, Nordal Le Landais est condamné à la réclusion à perpétuité assortie d'une peine de sécurité de 22 ans. Devant les caméras, Jennifer Desharo rend hommage à sa fille. Maëlys a mis un dangereux criminel en prison. Il ne fera plus jamais de mal à personne. Et pourtant, le 19 février 2025, Nordal Le Landais est de retour devant la justice pour un procès à huis clos à Colmar. Il doit répondre d'actes de violence commis au parloir sur sa compagne, des actes qui ont été filmés. Voilà quelque temps, en effet, que Le Landais entretient une relation avec une femme qui a commencé à lui envoyer des lettres en prison. Femme qu'il saisit à la gorge et brutalise un jour de visite. Si elle dit ne pas vouloir se porter partie civile, ne s'estimant pas victime de violence, Nordal Le Landais est néanmoins condamné à un an de prison, 3 ans d'interdiction de voir son fils de moins de 2 ans et déchu de son autorité parentale. Car le meurtrier de la petite Maëlys et du caporal Noyer est désormais père d'un petit garçon conçu au parloir et devant qui ont été commises ces violences conjugales. « Je suis particulièrement inquiet pour l'avenir de cet enfant », indique l'avocat de l'association Thémis, mandaté par la société pour représenter l'intérêt du petit garçon pendant l'audience. Je suis inquiet. On le serait à moins.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Nordal Le Landais. On en parle avec notre invité Michel Moati. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sociologie, également romancier, auteur de rapports sur Nordal L, donc c'est Le Landais évidemment, paru chez AC Éditions en 2022. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce roman, constitué entre autres de fragments de la vie de Nordal Le Landais, un roman qui puise largement dans le réel?
Je crois que votre récit l'a dit. Ce qui m'a emporté dans cette enquête, qui est devenue un roman, c'est, je crois, le profil totalement atypique de Le Landais, qui s'est révélé très vite, hein, au bout de quelques heures, ou en tout cas quelques jours dans l'enquête. Les enquêteurs ont relevé cette polyvalence du mal, qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas en France, dans l'histoire criminelle française, qu'on trouve peut-être aux États-Unis, mais rarement chez nous. Ou alors, il faut aller chercher loin, Je pensais à Joseph Vacher, par exemple, le tueur de bergères fin du 19e siècle, ou plus près de nous, Fourniret, qui peut aussi avoir des facettes un peu divergentes. Donc ça m'a interpellé chez Le Landais, parce que c'est atypique. Et c'est aussi son côté, j'ai employé un mot qui va peut-être paraître insolite, obscène. Les premières déclarations de Le Landais, quand il était confronté aux questions des enquêteurs de l'investigation, m'ont semblé à la fois très vite celles d'un psychopathe pervers, dangereux, mais aussi obscène. Et alors, je sais pas si j'aimerais citer une, enfin en tout cas évoquer une image qui est parue dans Paris Match assez vite, après un mois à peu près après l'enlèvement de Maëlys, où on voit, c'est une des premières photos qu'on découvre de Nordal Le Landais, où il est à la noce, enfin au vin d'honneur de la noce l'après-midi, où il se trémousse un petit peu avec un verre de vin à la main au milieu des invités. Alors il est aussi là totalement singulier, il est en bermuda avec un t-shirt un peu cradingue, alors que les autres invités sont habillés pour un mariage, et lui il est alors sans doute un peu éméché, mais il est déjà dans une posture de chasse, il me semble. C'est une nuit d'été, c'est le mois d'août, il y a un décor un peu champêtre, etc. Et les gens sont là pour passer un bon moment, pour faire la fête, etc.
Donc ils s'en fichent de ce type en bermuda, finalement.
Le passager clandestin, à la limite, il passe un peu inaperçu.
Oui, c'est ça.
Évidemment, dès que le drame s'avère, il devient tout de suite beaucoup plus suspect.
Évidemment. Alors, vous vous intéressez à la personnalité de Le Landais, plus qu'au scénario, finalement, parce que le scénario est simple. Hein. Tout l'accuse, il est bordé par son téléphone. C'est pas un fait divers, un suspense, un rebondissement. C'est très simple, quoi.
Oui et non, parce que ce qui est aussi très singulier dans l'affaire Le Landais, c'est qu'il est confronté sans arrêt. Il y a une avalanche de preuves ou de commencements de preuves contre lui. Et vous l'avez dit, l'expression réponse à tout, c'était même un des surnoms qu'employait un des enquêteurs pendant l'enquête. C'est vrai que quand il est confronté à des évidences, des témoignages, des preuves, y compris l'ADN sur le volant, pas l'ADN, la goutte de sang, là, c'est fini. Vous l'avez dit, le chapitre clos.
Tout l'accable.
Mais il a évidemment tout de suite un argument à opposer aux découvertes successives de l'enquête. Comme si, alors spontanément il n'avoue rien, mais dès qu'il est confronté, il a quelque chose. C'est oui mais.
Mais parce qu'il a toujours cette botte qui n'est pas secrète, mais qu'il sort à chaque fois, c'est « j'ai donné la mort sans intention de la donner ». Donc il essaie de transformer ça en homicide involontaire. Est-ce qu'il change les choses par rapport à la peine, évidemment?
Alors, on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. Dans les deux cours d'assises, on a vu qu'en effet, le côté garçon, petit garçon menteur est flagrant, hein, aussi bien pour le caporal Noyer que pour Maëlys. C'est moi, mais je ne l'ai pas fait exprès. C'est un côté quand même un peu singulier, si ce n'est surréaliste, hein, d'un adulte de 34 ou 40 ans qui a du mal à reconnaître la réalité de son comportement. Deuxième enjeu, au-delà de volontaire ou pas, c'est la dimension sexuelle. Dans les deux cas, c'est là-dessus qu'il va se battre, et Maître Jakubowicz, son avocat, avec lui, bec et ongle. Ça a été vraiment au cœur, je crois, des deux procès d'assises, hein, à Chambéry et à Grenoble. Est-ce qu'il y a une dimension sexuelle ou pas? Alors, sur le caporal Noyer, ça aura peu d'importance. Sur Maëlys, c'est fondamental.
Bien sûr. Alors, donc, il réfute cela?
Bien sûr. Bien sûr.
Ok, je vais bien passer pour quelqu'un qui a tué, sans le faire exprès, mais je ne suis pas un prédateur sexuel. En gros, c'est ça.
Ah, c'est plus que ça. Alors, ça a été sans doute une stratégie aussi qui a été appuyée par Alain Jakubowicz. Sauf que l'acte d'accusation de Grenoble fait aussi porter, avec le procès Maëlys, l'affaire d'agression sexuelle sur ses deux cousines, que vous avez citées tout à l'heure, 4 et 6 ans, qui semble extérieure à l'affaire Maëlys. Il y a une conjonction de temps, mais pourquoi l'acte d'accusation met ces vidéos d'attouchement sexuel au procès de Grenoble? Évidemment pour faire planer sur le procès de Grenoble la dimension agression sexuelle, qui va reconnaître pour les petites filles, pour les deux cousines, mais jamais pour Maëlys. Parce que ça change tout. Ça
Bien
change
sûr.
Tout sur le verdict.
Bien Donc. Sûr. Alors, si je puis dire, qu'avez-vous appris, compris de Nordal Le Landais que nous ne citons pas dans le récit?
Un peu ce que je vais revenir sur ce que j'ai dit, mais cette dimension tout à fait singulière d'un personnage, je dirais maléfique, qui apparaît très vite comme maléfique, hein, parce qu'on va reconstituer. Vous avez parlé de la cellule Ariane qui va chercher, qui va pas trouver grand chose finalement sur Le Landais, mais tout le monde va fouiller sur Le Landais. On va avoir des témoignages de sa vie dans l'armée, son passage dans l'armée, avec un de ses supérieurs l'a traité de boule puante, par exemple, ce qui est pas un qualificatif tout à fait banal. On va trouver des tas d'anecdotes plus ou moins significatives en termes de passage à l'acte criminel à venir, qui en font, moi, à mon avis, quand je voyais ces... Alors, il y a eu un déballage, ça a été très très largement évoqué par les médias. Les médias classiques, ceux qui ont fait un travail journalistique, ont été très prudents avec ça, d'autres beaucoup moins, en particulier les réseaux sociaux, qui ont été souvent très voyeuristes, hein, pour employer un mot faible, sur ce qu'on pouvait montrer de la vie antérieure de Lelandais, mais des choses qui donnaient de lui un visage... Le mot faible, ça serait patibulaire, mais ça va bien au-delà. Tout à l'heure, j'employais le mot obscène. Je pense que ça, ça le définit bien. Il est un peu tout le temps, y compris avant d'être confronté à des éléments directement criminels. On a diffusé sur, je sais plus, sur une émission d'enquête télévisuelle, enfin de reconstitution d'enquête télévisuelle, des entretiens qu'il avait eus téléphoniques avec des hommes, donc des relations homosexuelles, hein, qui sont, mais au-delà de l'obscénité pornographique, qui ont été diffusés sans phare à la télévision. Moi, je trouve qu'il y avait quelque chose qui donnait plus encore que les grands criminels. On parle de Landru, etc., mais qui ont accumulé, ou Jack l'Éventreur, qui ont accumulé des victimes au-delà de ce qui est pour l'instant confronté à Lelandais. Mais lui, il va au-delà de ça en termes de personnalité. Il a quelque chose, et ça s'est vu aux assises. Je pense que c'est ce qui a mis mal à l'aise aussi à peu près tout le monde, le public, les journalistes, la cour. J'ai assisté la cour, aux assises de l'Isère, à Grenoble. La présidente a été d'un calme et d'un savoir-faire, d'une rigueur absolue, face à quelque chose qui était, encore une fois, de l'ordre de l'obscénité.
France Inter. Sensible.
Michel Moati, puisque vous vous êtes intéressé à la personnalité de Lelandais, c'était votre motivation principale, quel est votre regard sur ce qu'on en dit, sur ce qu'on, les psychiatres en ont dit de Lelandais?
Alors la réponse, elle a été à la fois simple et brève. La folie a été écartée à chaque fois, par les différents psychiatres qui l'ont examiné.
Donc responsable de ses actes.
Responsable de ses actes et dangerosité criminelle absolue. Je crois que ça aussi, ça parle sans qu'on commente pendant des heures. Donc pour le grand public, je pense qu'on peut parler d'un psychopathe pervers de première classe.
Et vous avez donc assisté au procès, vous avez parlé tout à l'heure du comportement de Lelandais. Quels sont vos souvenirs concernant la famille, les gens tellement douloureusement affectés par ces histoires, notamment les parents de Maëlys?
En effet, alors ça rejoindrait votre première question de tout à l'heure, pourquoi je me suis intéressé à ça et je suis rentré dans l'affaire. D'abord, j'avais eu envie de rencontrer. Je crois que les mots suffisent pas. Les mots d'un journaliste, les mots d'un romancier ne suffisent pas si on veut approcher ce type d'affaire. Donc j'ai souhaité rencontrer Madame de Harougeau. Très vite, on a correspondu plusieurs années. J'ai été la voir chez elle dans le Jura. On a longuement parlé. Moi, j'ai été journaliste longtemps. J'ai fait pas mal d'interviews, mais là, je dois dire que j'ai été vraiment bouleversé. Il y avait quelque chose presque de physique dans l'entretien dans les entretiens qu'on a pu avoir. Donc ça, c'est sans doute. Alors, c'est la première fois de ma vie. J'ai fait du fédiv, mais j'ai jamais été à un procès d'assises. Et ce procès d'assises-là, je pense que j'ai bien choisi mon épisode. C'était vraiment terrible. Alors, est-ce que je peux citer un moment particulier?
Mais bien sûr, j'allais vous dire quels sont les mots dont vous vous souvenez.
Alors, les mots, c'est plus des images que des mots.
Des images, oui.
Juste une image qui a échappé aux médias pendant toute l'instruction, pendant toute la durée de l'enquête. Vous l'avez cité tout à l'heure, c'est cette fameuse image de caméra de surveillance de l'opticien de Pont-de-Beauvoisin qui a capturé l'Audi de Lelandais à 2h47 du matin, où on voit la petite forme blanche dans la voiture de Lelandais. Cette image, elle a été commentée abondamment. Maître Jakubowicz saignait qu'il s'agissait d'une petite fille. Enfin, ça a été une polémique sans fin. Et elle a été diffusée pour la première fois, à part à la famille et aux proches, aux assises de l'Isère. Donc ce sont des images très floues, très nocturnes, et je les ai trouvées bouleversantes. Parce que qu'est-ce qui se passe? En effet, on voit pas grand-chose. On voit un conducteur, on voit une petite forme blanche, avec un décolleté, rond ou carré, j'aurais bien du mal à le dire. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que dans quelques minutes, Maëlys sera morte. C'est ça qui est... Alors quand c'est ramené à ça, on en parle comme ça dans un studio de radio, c'est pas grand chose. Enfin,
il situe autre chose, mais j'imagine. Oui.
J'imagine quand les parents de Maëlys ont découvert ces images-là.
Alors, durant l'enquête, la défense de Lelandais a largement dénoncé les violations du secret de l'instruction. Beaucoup d'éléments du dossier, de photos de Nordal Lelandais ont fuité dans la presse. Alors vous-même, vous avez été concerné par ces critiques. Hein. Votre éditeur a renoncé à faire publier votre livre avant les procès Lelandais, car l'avocat de la défense menaçait de porter plainte pour atteinte à la présomption d'innocence de son client. C'est un peu gros, parce que cette atteinte à la présomption, elle était là, tout le temps, partout.
Elle était là, mais je pense que quelques années après, je fais un mea culpa maxima. Je pense que j'ai été très maladroit, sans aucun doute. J'ai jugé en effet que l'abondance d'éléments de preuve, d'éléments matériels, y compris de l'ADN, qui semblait un élément incontournable, plus les aveux réitérés sur les deux affaires, levait la présomption d'innocence, ce qui n'est pas le cas en droit français. Et donc c'est évidemment une grande maladresse de ma part. Voilà, la seule manière de contourner ça, c'était d'attendre le verdict, oui. Les deux verdicts, et l'annonce de non-appel de Maître Jakubowicz. À partir de là, oui. On pouvait sortir le livre.
Bien, mais j'allais vous couper, pardon, parce que ce sont aussi les violations du secret de l'instruction qui ont mis les gendarmes chargés de l'enquête sur la disparition d'Arthur Noyer sur la piste de l'Audi A3 de Lelandais. Hein, on sait que l'agitation médiatique peut fragiliser les enquêtes, comme dans l'affaire Grégory. Mais elle peut aussi les aider à avancer.
Oui et non, parce que je dirais que c'est surtout, alors Madame de Harojo, Jennifer de Harojo me l'a dit plusieurs fois, et ça c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché, c'est Maëlys qui a dénoncé Lelandais sur c'est une image, mais c'est surtout la découverte de la présence de l'Audi A3 sur l'affaire Maëlys qui a incité les gendarmes, les enquêteurs à revenir sur les affaires, et de s'apercevoir qu'autour du carré curial, il y avait eu cette Audi A3 et que c'était la même. Donc l'affaire Maëlys a ouvert une sorte de flashback sur l'affaire précédente, le meurtre précédent de Lelandais. Donc les violations du secret de l'instruction, la violation d'image et de vie privée, il y en a eu. Il y en a eu sur les réseaux sociaux, sur la famille, sur plein de choses. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais pas par tous les médias. Il y a des médias qui ont fait leur travail consciencieusement, qui ont attendu les conférences.
Comme d'habitude. D'autres non, voilà.
Le procureur de la République, les conférences du procureur, etc. pour parler, et d'autres qui se sont engouffrés dans les brèches.
Alors, toute dernière chose, la dimension cold case de l'affaire, le père de Jean-Christophe Morin, un homme disparu en 2011 au fort de Tamiers, s'est exprimé récemment dans les médias pour dire qu'il est convaincu que Lelandais a quelque chose à voir avec la disparition de son fils. Est-ce qu'on essaie encore aujourd'hui de rattacher Lelandais à d'autres victimes et à d'autres crimes non élucidés dans la région?
Alors, pas la cellule Ariane, puisqu'elle est dissoute depuis le printemps 2021, si je ne me trompe pas, mais elle a été reversée, enfin les éléments qui étaient contenus par Ariane ont été reversés à la division cold case de la gendarmerie nationale, donc ça reste les éléments qui peuvent être patents et aider les enquêteurs à identifier la présence de Lelandais sur d'autres affaires sont là. Sur l'enjeu auprès des proches de victimes, il y a, on l'a vu sur d'autres, pas seulement les disparus du fort de Tamiers, c'est que les gens ont envie de savoir, les proches ont envie de savoir, et que Lelandais, comme on l'a dit tout à l'heure, la maman de Noyer l'a dit, du caporal Noyer l'a dit, si c'est Lelandais, c'est fini. Mais en même temps, est-ce que fini, c'est pas mieux que ne pas savoir? Ça, je pense que beaucoup de proches se sont aussi fait cette réflexion-là. Est-ce que, si on était sûr que c'était Lelandais, ça nous aiderait pas à faire le deuil?
Eh bien, ce sera le mot de la fin, en forme de question. Merci infiniment, Michel Moati. Au revoir.
Au revoir, merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Lelandais, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Maxime Godard.